est blanche.
40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Celui qui l'a choisi est Frédéric de Gombert, fondateur d'Acaneo. Et au micro de 40 nuances de Next, il l'a décrite comme une entrepreneur incroyable, un modèle de résilience qui se bat dans un milieu très régulier et contraint. Elle va nous raconter tout ça. Mon invitée aujourd'hui, c'est Laure Bouguin, fondatrice de Ocaran. Bonjour Laure.
Bonjour Solène.
Alors Laure, avant de commencer cet entretien, je t'ai demandé quelle musique symbolisait ton aventure Ocaran qui a commencé il y a combien de temps maintenant ?
Il y a 7 ans, en 2015.
Il y a 7 ans maintenant. Et tu m'as dit... Pensez à ce choix.
Bon, déjà, cette musique, elle donne une patate d'enfer. Je l'aime vraiment beaucoup. Le titre, c'est Ride Like the Wind. Et quand Frédéric m'a suggéré, il parlait de résilience, mais il posait aussi cette question de savoir un peu comment je fais pour rebondir, pour apprécier. Et en fait, pour moi, c'est ça, Ride Like the Wind. Laisse-toi porter. Et puis, on verra bien ce qui se passe, quoi.
C'est ta philosophie de vie.
Je sais pas si... J'essaye, en tout cas. La philosophie sur laquelle j'essaye de travailler en ce moment, c'est de profiter du chemin, de prendre plaisir en toute chose. Il n'y a pas de destination en entrepreneuriat, il n'y a pas de destination dans la vie. On est, et il faut profiter de ça. Et donc, si on se laisse porter comme cette feuille par le vent, bah, normalement, on peut voler et on peut s'amuser.
Bon, ben, écoute, j'espère qu'on va être porté par ton histoire pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais rappeler ce qu'est cette jolie marque Ocaran que tu as créée ?
Oui, Ocaran, ça veut dire « je vous aime » en breton. C'est une marque de soins qui a pour vocation de déstresser les urbains. Donc on les déstresse avec des produits, on les déstresse avec des expériences, toujours pour l'instant à base de chanvre, donc c'est cette plante que mes grands-parents cultivaient en Bretagne pour faire du papier. Et nous, on l'utilise pour ces molécules déstressantes qui vont peut-être de la fleur, dont on parle beaucoup du CBD, mais aussi plus largement de la graine, de la fibre. On en a mis partout dans le centre de soins qu'on vient d'ouvrir d'un point de vue architectural. Et ce qui m'intéresse, c'est comment le chanvre, les plantes druidiques, les plantes chamaniques et plus largement la nature, en fait, et la nature, c'est nous, peut nous permettre de nous apaiser, de retourner un peu à la source. Donc c'est une philosophie qui est très large au Caran. On est décrit comme une marque holistique, une marque lifestyle. Et pour moi, c'est un projet, en fait. Et c'est un projet de vie, notamment.
Alors, si mes souvenirs sont bons, et on en parlait un peu off-micro avant, tu as commencé plutôt sur une niche, sur de la cosmétique pour hommes. C'était ouais. Les débuts d'Ocaran.
J'ai lancé Ocaran en 2015. À l'époque, j'étais étudiante dans une école de commerce qui s'appelle Audencia. Et donc, c'était mon projet de fin d'études. J'ai fait mon stage dans ma propre entreprise à ce moment-là. Et ce projet...
Génial, ils t'ont autorisé à faire ça.
Ouais. Ils venaient tout juste de mettre en place le statut étudiant-entrepreneur.
Génial.
Donc une contrainte, c'était que je reste à l'école. J'avais un petit bureau dans l'école pendant que mes potes étaient partis à faire des stages à l'autre bout du monde. Mais moi, de toute façon, c'était depuis la première année, c'était mon projet, c'était ça que je voulais faire. Pourquoi les hommes donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de soigner avec le chanvre. Le chanvre, le cannabis, c'est la même plante. Et il se trouve que les barbiers utilisaient l'huile de chanvre pour ses vertus anti-inflammatoires. Et la dimension cannabis avait quelque chose d'assez masculin. La cosmétique, le soin pour femmes, la rose, la vanille, le jasmin, il y a des choses très féminines dans leur connotation, très florales. Et le chanvre avait ce truc un peu rêche, un peu rude de matériaux. Et puis cette connotation stoner du cannabis. Et donc, ça me semblait plus facile pour moi d'arriver par là. Et j'avais fait un stage dans une agence de design en cosmétique à Paris. Et j'avais été dégoûtée par le milieu de la cosmétique tel qu'on l'imposait aux femmes, très orientée sur le jeunisme. Des produits anti-âge, des produits culpabilisants. Et la cosmétique pour moi me semblait un peu plus fun, un peu plus sympathique. Bon, c'était une grosse erreur, mais on a pivoté. Déjà parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de valoriser la plante de chanvre et d'innover sur la plante. Or, quand tu rentres sur un segment de marché comme la cosmétique pour hommes, tu innoves sur les usages. Moi, j'ai commencé en même temps que Horace, tu vois, par exemple, qui est une fantastique réussite et j'ai un peu...
Marque de cosmétique pour hommes, pour ceux
exactement.
Qui...
Et j'ai pu un peu discuter avec Marc au début de notre parcours. Et en fait, tu vois, lui, ce qu'il a fantastiquement fait, c'est innover sur la communication pour les produits pour hommes et innover sur l'usage. Donc, des produits qui restent accessibles en termes de prix. Mais par contre, on t'explique que ouais, tu peux utiliser un gel douche ou une crème hydratante fait pour les hommes et rester un bonhomme, que c'est comme ça qu'on utilise un contour des yeux. Enfin, en fait, il éduque, tu vois, il fait de la pédagogie. Moi, j'avais de la pédagogie à faire sur le chanvre pour expliquer pourquoi c'est une plante innovante, pourquoi c'est elle qui allait changer notre façon de produire, de consommer et de prendre soin de soi. Donc, la segmenter derrière, en plus, en termes de cible, c'était pas hyper malin de ma part. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert rapidement pour pouvoir vraiment parler du chanvre et pas parler juste des hommes. Et en plus, quand j'ai commencé à bosser avec des labos, que ce soit sur la R&D ou la prod, je me suis rendu compte qu'ils sortaient les mêmes formules et qu'en fait, la différence, c'était le prix, le packaging et le parfum. Mais que fondamentalement, sur des marques très connues, très célèbres, qui ont des gammes pour hommes, des gammes pour femmes, t'étais globalement sur les mêmes formules. Et donc, ma vision, moi, de la vie de la consommation, c'est plutôt d'aller vers du coup de l'unisexe, de non-genré. Et donc sur un produit qui peut servir à tout le monde. Et après, suivant toi, ce que t'aimes en termes de clinique, de sensorialité ou ton besoin en termes d'efficacité, tu vas juste changer de produit. Mais il n'y a pas besoin d'avoir 50 produits pour hommes, 50 produits pour femmes.
Et tu t'es lancée sur ce sujet parce que tu as dit, tu as une histoire, longue histoire avec le chanvre. Tes grands-parents le cultivaient. Moi, j'ai une petite question. Il y a des normes pour cultiver le chanvre ?
Ouais, il y en a beaucoup. En fait, c'est arrivé après une convention dans les années 60. Avant, c'était assez libre et la France était de très loin le premier producteur avec, t'en avais partout du chanvre avant. Et quand il y a eu la convention sur les stupéfiants, qui est une convention internationale, il y a eu beaucoup de réglementations qui a été mise en place. Il y a deux pays qui ont refusé d'arrêter, malgré l'appel des États-Unis, la production de chanvre, c'est la France et la Chine. La Chine qui est aujourd'hui le plus gros producteur de très loin, le Canada est pas très très loin. Et donc, pour pouvoir continuer à produire ce chanvre en France, les agriculteurs ont dû s'engager sur un taux de cannabinoïdes et notamment le taux de THC, le tétrahydrocannabinol, c'est cette molécule qui donne des effets psychotropes. Donc quand tu fumes du chanvre, quand tu fumes du cannabis, c'est elle qui va donner les effets planants. Et donc, ils ont dû s'engager à l'époque à avoir moins de 0,2% dans la culture. Donc, ça veut dire qu'il y a de la sélection variétale. On est toujours en train de décrier les OGM, mais là, tu as un niveau de sélection qui est très important puisque tous les ans, les agriculteurs doivent acheter leurs graines à une banque de semences qui est validée par l'État. Ensuite, ils n'ont pas le droit de replanter leurs propres graines puisque naturellement, le taux de THC remonte. Parce que 0,2, c'est peanuts. Maintenant, on a le droit de passer à 0,3 à cause de la PAC, enfin grâce à la PAC pour la France, parce qu'il y a une harmonisation européenne. Mais bon, 0,3, c'est toujours rien du tout. Si tu regardes si tu prends un joint dans les années 60, Woodstock, les hippies, t'avais 5% de THC à peu près. Le THC, c'est notamment le système immunitaire de la plante, donc elle en a besoin. Si tu veux continuer à produire en bio de manière saine, bah, t'as besoin de lui laisser son THC. Donc 0,2, 0,3, c'est assez faible. Et les effets planants, ils arrivent qu'à 2, 3% avant, t'as quasiment rien. Donc il n'y a pas d'inquiétude, mais tout ça, c'est des lois faites par les hommes pour contrôler la nature. Mais ce n'est pas des questions de santé publique, réellement. C'est plutôt des questions de politique, de vision qu'ils ont pour une vision sociétale. C'est-à-dire que tu es là en train de promouvoir le vin, les terroirs, etc. Mais par contre, le cannabis, il y a tout un imaginaire assez raciste d'ailleurs, qui est associé, lié à la colonisation. Et du coup, c'est une plante qui est très décriée.
Et donc, toi, tu as toujours baigné dans cet univers ?
Alors, moi, le cannabis, ce n'est pas quelque chose dont on parlait.
D'accord.
Tu vois, le fait que le chanvre et le cannabis soient la même plante, c'est quelque chose que j'ai réalisé, en fait, très tardivement.
On t'avait caché cette chose.
On t'avait pas dit. En fait, si tu regardes en plein champ, c'est la même plante, mais comme en plein champ, elle monte très haut, à 3-4 mètres de hauteur, où elle va avoir une très longue tige parce qu'elle va aller chercher le soleil. Et c'est ça qui va permettre d'avoir de la longue fibre derrière pour faire de la papeterie, du textile, etc. Et des graines. Les graines sont très intéressantes en alimentation. Quand tu veux avoir des grosses fleurs, et c'est ce que cherchent les gens à la fois dans le médical, mais aussi dans le récréatif, tu vas lui mettre une pression lumineuse, ce qui fait que la tige va se tasser, être très basse, et l'énergie de la plante va aller dans la fleur. Donc c'est vrai, quand tu les mets côte à côte, c'est pas évident, t'as la feuille, évidemment, qui est très caractéristique avec ses cinq branches, mais c'est pas forcément clair que directement c'est une plante qui est le cannabis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le chanvre, tu peux te vêtir, te loger, te soigner, te nourrir avec. Et donc, dans cette notion d'économie circulaire, de redonner, de renouveler les sols, parce qu'en plus, elle a ce truc fantastique de, on la cultive en rotation, ce qui fait que l'année d'après, tu peux mettre du blé, tu peux mettre du maïs, tu peux mettre autre chose, elle va revenir aérer, renouveler les sols. Donc, c'est plus cette dimension-là, moi, qui m'a intéressée. Le côté sulfureux du cannabis, à certaines périodes de Haut-Karen, on en a joué. Au début, pas du tout, parce que de toute façon, en 2015, c'était pas le sujet.
Oui.
J'ai fait partie de l'accélérateur de Sephora qui était basé à San Francisco. Et du coup, là, ça m'a complètement désinhibée sur ce que je pouvais raconter. Donc, je suis revenue avec ce truc très assumons. À l'époque, j'avais cofondé le syndicat professionnel du chanvre. On a fait beaucoup de lobbying. On a fait des colloques à l'Assemblée nationale, au Sénat. On a édité des livres blancs, etc. Et du coup, j'étais un peu poussive sur le côté mettons cannabis, parce que c'est cannabis sativa. Moi, en vrai, linky des produits, quand tu écris la formule, tu dois écrire cannabis sativa. J'étais un peu plus rentre-dedans. Et après, il y a les CBD shops qui sont arrivés, qui ont fait du bien et du mal à la fois. On pourra parler des problématiques de paiement, de Facebook, etc. Et du coup, là, je suis revenue un peu en arrière en mode plus doux. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que le CBD. Le CBD, c'est une molécule, elle est fantastique, mais ce qui m'intéresse, c'est toute la plante. Et donc, je suis revenue un peu plus à cette notion de chanvre. Et notre vision qui est de déstresser les gens, qui est le bénéfice, finalement, on est en train de le faire passer de plus en plus en amont. Au début, on disait ce qu'on faisait, des produits de soins au cannabis. Après, on disait comment on le faisait en France avec de l'expertise. Et aujourd'hui, on dit pourquoi on le fait pour déstresser les gens. Et c'est ce qui nous permet d'ouvrir la porte à d'autres choses, le spa, d'ouvrir avec d'autres plantes. Moi, je suis très intéressée par les champignons, on en parlera peut-être. Le chanvre, c'est un fantastique tremplin, mais ce n'est pas une finalité.
C'est des sujets scientifiques aussi. Tu disais, j'ai fait une école de commerce. Du coup, tu t'es entourée.
Alors, en France, on aime bien avoir un diplôme pour valider le fait qu'on puisse parler de quelque chose. Moi, il se trouve qu'en bossant 7 ans dedans, en éditant des livres blancs, en travaillant avec des chercheurs, j'ai acquis une expertise.
Mais au tout début, je parle plutôt.
Au tout début, franchement, tu fais des erreurs. Ouais. On a lancé 3 versions différentes de la marque, 3 formulations différentes, parce qu'à chaque fois, on améliore. Et toujours, évidemment, avec des experts, donc en R&D, des cosmétologues, phytothérapeutes, aromathérapeutes, pharmaciens. Et sur la partie production, en France, on a les meilleurs laboratoires au monde de production cosmétique. Donc, c'est pas très dur de trouver des gens capables de t'accompagner là-dessus. Et toi, t'arrives avec un brief au départ qui est plutôt marketing, parce que t'es capable de parler de galénique, de sensorialité, d'actifs, de bénéfices. Et puis, au bout d'un moment, t'acquiers le savoir et maintenant je peux leur dire j'aimerais tel actif de tel machin pour telle propriété, je veux une objectivation à tant de pourcents et pourquoi. Mais oui, ça vient en faisant. Mais en effet, au début, je suis pas allée chez L'Oréal en stage en formulation, j'ai fait un stage en packaging design, en agence, et j'en ai fait un autre en finance chez Chanel. Donc autant te dire que j'étais assez loin
du labo.
Mais c'est ça, l'entrepreneur, c'est le chef d'orchestre de plein de choses. Donc c'est juste avoir cette vision de où est-ce que je veux aller et puis apprendre très vite. Et du coup, l'objectif, c'est d'apprendre, c'est d'être toujours un étudiant éternel. Tu vois.
Donc, tu commences cosmétique pour hommes. Tu dis non, ça va pas du tout parce que c'est pas ça, en fait,
non,
que je veux faire.
Ça marche pas.
Donc, tu fais un premier pivot.
Ouais.
Et là, il se passe quoi ?
Là, c'était la merde parce que cette boîte, comment je l'ai financée ? Puisque donc, j'étais étudiante. Je viens pas d'une famille modeste, je viens pas non plus d'une famille aisée, classe moyenne française, Bretagne. Mon père était cheminot, ma mère était conseillère dans les assurances, donc loin de ce modèle-là. Du coup, lancer de la R&D, ça coûte. Ça coûte beaucoup et il faut un socle de départ. J'ai été naïvement voir des business angels à Nantes au départ en mode j'ai un super projet, etc. Ils m'ont dit super, tu fais du chiffre d'affaires et puis quand tu as du chiffre d'affaires, tu reviens. Ce qui était en vrai, très sain de leur part, tu vois, a posteriori. Donc, je me suis dit, comment récupérer de l'argent quand tu n'as pas d'argent ? Et la dette est un très bon modèle. Donc, je suis allée voir un banquier pour financer mes études. C'est là où j'ai quand même eu une chance fantastique. C'est que mes parents m'ont payé cette école qui coûte extrêmement cher. Et que s'il n'avait pas fait, je ne sais pas comment j'aurais pu démarrer. Donc, j'ai pris un emprunt étudiant. J'ai pris 25 000 euros. J'ai mis 15 000 au capital de Caran et j'en ai gardé 10 pour vivre. Ensuite, j'ai eu des prêts d'honneur avec la région, Initiative Nantes, Initiative Remarquable France. J'ai rajouté 15 000 euros que j'ai mis au capital. Donc, ça m'a fait 40 000 euros. Et après, je suis allée voir les banques. Et là, mes coups de poker incroyables. Pendant 6 mois, j'ai galéré parce qu'au moment où tu as tes prêts d'honneur, tu as 6 mois pour décaisser un emprunt bancaire. J'allais voir tout le monde. On me disait, oui, vous êtes gentil, mais tu sais, c'est quand même une pyramide de Ponzi de dette. Tu vois, tu sens le truc un peu venir, même si je disais pas nécessairement que c'était de la dette étudiante à la base. Et en fait, la BNP voulait pas me prêter. Donc, l'avantage de Nantes, c'est que c'est un tout petit écosystème et tu te retrouves vite en relation avec ces entrepreneurs incroyables comme Frédéric de Combert, comme Michel Froger de Lingo, etc. Et donc, je me suis retrouvée chez Digitaleo à Rennes, qui est une super boîte, à pitcher. Je sais plus pourquoi ils voulaient que je vienne raconter quelque chose. Et là, il y avait le directeur la com du Crédit Mutuel de Bretagne. Et j'étais à, franchement, max 2 semaines de l'échéance de mes prêts d'honneur. Et là, je bluffe et je dis oui, parce que la BNP va m'accorder un emprunt et tout. Pas du tout. Peut-être que j'y croyais très fort, mais en tout cas, c'était pas le cas. Et il est venu me voir à la fin et me dit, alors c'est pas possible qu'une marque bretonne passe dans les mains de la BNP. Et le mec a débloqué le sujet au Crédit Mutuel de Bretagne. Et à 5 jours de l'échéance de mes prêts d'honneur, j'ai eu mon emprunt bancaire. Donc j'ai tout lancé au début avec ça, faire la R&D, faire les prods, sachant qu'il y a des minimums de commandes qui sont très forts en cosmétique, t'es minimum à 2000, donc tu te retrouves, on avait lancé que 3 produits, mais c'est beaucoup en même temps. Et donc, je me retrouve au bout d'un moment, quand je souhaite pivoter et passer sur une marque mixte, à être au stade où je rembourse de la dette avec de la dette, tu vois. Mmh, mmh. Et ça, c'est pas une super idée.
Non.
Et du coup, là, ce qui m'a sauvée, bah, c'est la première levée de fonds. On a fait une levée de fonds de 300 000 euros en 2017.
Auprès de Business Angel.
Mmh. Business Angel et Petit Poussé, qui était un accélérateur pour étudiants entrepreneurs, mmh. qui passait via la plateforme Anaxago. Moi, les montages financiers, ma boîte, c'est un espèce de micmac de... En vrai, c'est des bouts de ficelle que tu raccordes, puisqu'on n'a jamais, vu qu'on a eu beaucoup de freins sur le lancement, on partait déjà avec de la dette, donc on ne partait pas très bien. On n'a jamais fait cette magnifique levée de fonds que tu mets en valeur dans le Next 40. Nous, c'est toujours un peu, pour l'instant, des bouts de ficelle. Et c'est pour ça, je pense que Frédéric Gombert disait qu'il y a eu de la résilience. Mais c'est parce qu'en fait, une marque, ça met du temps à s'installer. On peut se raconter ce qu'on veut sur ces magnifiques startups qui, en 2 ans, lèvent plein de millions, font du chiffre d'affaires et sont partout, puisqu'on est dans un mode aujourd'hui de consommation, de capitalisme qui accélère tout. Donc, il faut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. Mais créer une marque, ça prend du temps. Les marques fantastiques, les Caudalie, les Aesop dans mon secteur, ou les Patagonia, dont on parle beaucoup en ce moment pour des raisons sociales et environnementales, eh ben, il faut 10 ans. En fait, tu ne sors pas une marque de ta poche comme ça parce qu'il faut un ancrage sur des valeurs, il faut des bons produits, il faut une base consommateur solide. Et puis, il faut accepter de devoir un peu pivoter, s'installer, créer de la distribution. On a un énorme sujet de distribution dans mon secteur. Et ça, c'est long. Et on n'aime pas trop les temps longs aujourd'hui.
D'ailleurs, au sujet de la marque, quel conseil tu donnerais à un auditeur qui voudrait créer sa marque ?
Bah déjà de se demander pourquoi il veut créer sa marque. Parce que moi, pendant le confinement, j'ai vu toutes les marques de cosmétiques exploser. C'était beaucoup, dans mon secteur, des femmes qui travaillaient au marketing, au e-commerce ou dans des marques de cosmétiques un peu installées, qui se sont dit « Ah bah, en fait, pourquoi je m'emmerde à travailler pour quelqu'un d'autre alors que je pourrais le faire pour moi-même ?» Et donc, il y a eu une saturation du marché post-confinement avec des produits cosmétiques qui servent pour le coude droit, pour l'œil gauche, pour le cheveu. Mais c'est hallucinant. Et en fait, quand tu creuses pourquoi ces marques ont été créées, parce que j'avais envie d'entreprendre. Mais le client, il ne se lève pas le matin en disant « Ah, j'ai envie d'aider une marque française ». Il arrive avec un problème. Donc, c'est à quel problème tu réponds, quel est le bénéfice que tu apportes. Donc, si tu crées une marque parce que tu veux créer une entreprise, parce que tu veux être libre, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, vraiment se poser la question du projet. C'est quoi la vision que tu as du monde et comment ta marque va apporter une réponse à cette vision. Et bien, on a trop de marques à cause de Facebook et Insta, parce que maintenant les gens se disent ok, je crée un produit, et c'est beaucoup du dropshipping aussi, c'est du white labeling, c'est-à-dire que j'achète un truc déjà tout fait, je mets une étiquette
dessus
dans le CBD, c'est infernal. Enfin, en gros, t'as 3 gros acteurs qui produisent des huiles sublinguales et les gens vont les voir. Alors nous, on travaille pas avec eux parce que nous, tout est en sur mesure, mais les gens vont les voir et je suis capable de te dire parfois d'où ça vient, mais juste parce que c'est les mêmes produits tout le temps, et ils se disent bah ok, après je mets de l'argent sur Facebook Facebook, sur Insta, et puis les gens vont acheter, et fantastique, j'ai créé un business. Bah, ça, c'est le dream, tu vois, qu'on te vend, mais la réalité, elle est un tout petit peu plus compliquée que ça. Donc, ouais, une marque, il faut savoir pourquoi tu le fais et accepter que c'est long. Tu ne deviendras pas riche demain. Et il faut aimer profondément ce que tu fais, parce que si ce qui t'intéresse, on en parlait au début, c'est la destination, c'est juste de revendre ta marque, bah, ce n'est pas du tout le même projet que tu dois créer quand tu veux juste revendre ou quand vraiment tu mets ton cœur et ton âme dedans.
J'imagine que c'est un sujet que tu portes toi.
De mettre mon cœur et mon âme dans ce que je fais.
Ouais.
Bah ouais, ouais.
Non, le sujet de la marque aussi, c'est le sujet que tu... Enfin, tu délègues pas ce sujet.
Ah, écoute, oui, le marketing. En fait, moi, je m'occupe de tout le dev produit. Ça, c'est un truc que j'ai gardé parce que nos produits n'ont absolument aucun sens d'un point de vue logique marketing. Si tu es responsable du dev produit chez L'Oréal et qu'on te dit on doit créer une marque au chanvre pour déstresser les gens, je ne pense pas que tu arrives avec les best-sellers que nous, on a. Mon premier produit, c'est une huile que tu mets sous la langue pour mieux dormir. Il y a 5 ans, ça n'existait pas, cette gestuelle de l'huile. Mon deuxième, c'est l'huile libertine, qui est une huile intime, une huile lubrifiante. Donc, fallait oser aller sur ce sujet. Et ensuite, j'ai une crème, un baume et une infusion. Ça, tu vois, ça part un peu dans tous les sens si tu suis des logiques purement marché. C'est par contre très cohérent avec la plante de chanvre, les bénéfices et la manière dont on peut articuler une offre client. Mais en fait, c'est des produits que je sors parce que je ressens un besoin à titre personnel. Et c'est pour ça que quand tu es que sur l'homme, alors que toi, tu es une femme, c'est plus difficile d'avoir cette intuition, cette sensation. Soit parce que j'ai terriblement envie de parler d'un sujet. Là, l'huile libertine, c'est arrivé à un moment où j'approchais de la trentaine, où je voyais que le discours sur la sexualité, et notamment sexualité féminine, ne me plaisait pas. Et on est arrivé en même temps que tous ces contes qui ont parlé soudainement du clitoris, de machin. J'avais envie de raconter quelque chose. Donc c'est très intuiti personae. Du coup, c'est vrai que le marketing produit, je le garde. Et je continue de chapeauter la com parce qu'on est une marque de contenu. Vu qu'on ne peut pas faire de Facebook ad, d'Insta ad,
on est... Oui, alors ça, on le reprécise, c'est donc y a la loi, comme on ne peut pas faire pour les vins et spiritueux.
Alors en fait, c'est même pas la loi française, c'est la politique interne chez Palo Alto de Meta.
Ok. Mais toi, tu peux faire de la pub, CBD, chanvre, cannabis?
Alors, le problème, c'est que les régisseurs vont rarement accepter. Ouais. Tu vois, genre, on a essayé la pub métro, ils nous avaient dit non. La pub télé, là, ça commence à arriver. J'ai eu quelques marques qui faisaient de la pub télé. Donc, il n'y a pas de loi, on ne rentre pas dans la loi E20. Par contre, chez les annonceurs, on passe souvent avec sexe, drogue, alcool. Mm-hmm. On rentre souvent dans la même catégorie. Donc, on a les mêmes problématiques. Je pense à Gapian qui nous redistribue, qui a un site dédié au plaisir féminin. Bah, quand tu remets plaisir féminin plus CBD,
oui, là, tu ne passes plus.
Voilà. Et moi, mon compte Insta, on s'est fait bloquer lors de notre première campagne Kickstarter qui était en 2017. Donc, déjà, on s'est fait virer de Kickstarter quand ils ont compris que c'était du chanvre. Et en plus, on avait lancé toute un sequencing de Facebook ad pour aller faire connaître la marque. Et là, c'est le compte carrément qui a été bloqué, le business manager. Et on n'a jamais pu débloquer le compte après 2017. Donc oui, t'as pas mal de limitations. Enfin, on se fait virer de Stripe, toutes les plateformes de réservation type Planity qui permettent de faire du booking de spa.
Oui.
Bah, on peut pas être dessus.
Alors, comment tu contournes ça?
Tu passes ta vie à galérer. Tu cherches tout le temps le nouvel acteur qui va être OK. Et dès que tu as un acteur avec qui ça se passe bien, tu en cherches quand même un deuxième au cas où tu te fasses sauter.
Est-ce que avec des acteurs français, c'est plus facile?
Non.
D'accord.
Non.
Non, c'était pas une...
Non, même plus compliqué.
D'accord.
Il y a une ouverture d'esprit à l'étranger, en Espagne, dans les pays nordiques, sur le chanvre qu'on n'a pas du tout, nous, en France. Donc, c'est pas plus compliqué, mais c'est pas plus facile, mais il faut juste être hyper flexible, en fait. Mmh. Tu vois, Frédéric parlait de résilience. En fait, je crois qu'au-delà de la résilience, c'est surtout de la flexibilité. Il faut accepter de devoir changer continuellement, s'adapter. Et ça se fait pas forcément dans la souffrance. Tu vois, dans la résilience, ce que j'aime pas trop, c'est ce côté douleur, un peu d'opposition, de force. Et j'aimerais bien qu'on sorte un peu de ça. Même si là, je te raconte des galères, en vrai, je pourrais aussi te raconter tout le côté positif lié à ça. Et tout n'est pas toujours en poussif, force et tout. Par contre, c'est cette fluidité, cette souplesse, cette agilité qu'il faut avoir.
Et aujourd'hui, en termes justement d'acquises, si tu ne peux pas passer par les Insta, Facebook, etc., où tes concurrents cosmétos peuvent aller chercher leurs clients, toi, tu fais comment?
Alors, il y a un levier qui est l'influence qu'on n'a jamais très bien su utiliser, mais qui aurait été pu être un super levier si on avait voulu le faire correctement. Pourquoi on ne l'a jamais fait correctement ? Un, on a un produit qui est quand même assez premium. Donc, tu es moins sur de l'achat spontané, très impulsif, de « Ah, il y a une influenceuse que j'aime qui parle d'un truc, vas-y, je l'achète. » Il y a quand même un peu plus de réflexion. Deux, on est sur un produit qui demande pas mal d'éducation et on n'a jamais réussi à craquer avec elle, surtout, la façon de parler correctement du produit sans tomber ni dans le côté racoleur du CBD, ni dans le truc trop scientifique. C'est pas du self-selling, tu vois, il faut bien, on n'a pas réussi à faire ça. Et la dernière, c'est qu'en vrai, moi, ça me saoule. J'aime pas trop l'influence. J'aime la création de contenu, mais le côté purement un peu parfois télé-shopping, vraiment, c'est pas du tout le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et du coup, il fallait trouver les quelques nanas super bien qui arrivent à amener les choses de manière intelligente, parce qu'elle crée plein d'autres contenus sur lesquels on est en affinité. Et il n'y en a pas 10 000 là-dedans. Et celles qui vendent super bien, on les connaît maintenant, et ce n'est pas des personnes avec qui j'ai envie de travailler. Donc, on a fait un peu d'influence. Ça nous a permis de grossir la communauté. On n'est qu'en organique. Hein, nous, sur Insta, on a 35 000 personnes. C'est du pur organique. Surtout qu'on se fait shadowban par Insta, parce que comme tu ne sponsorises pas, moi, tu vois, sur 35 000 personnes, j'ai 1 000 personnes qui voient ce que je fais en termes de contenu si je fais une story ou un post. Parce qu'ils sont là, il faut sponsoriser si tu veux être visible.
Bah oui, mais je ne peux pas.
Mais tu m'empêches de sponsoriser. Donc, tu vois, c'est un peu un cercle vicieux. Ouais. Donc, une fois que tu as passé les questions d'influence, il y a de la presse. Ça, c'est un fonds qu'on fait, mais c'est du brand notoriety. Tu vois, t'es pas en train de... C'est du très, très long terme. J'ai rarement eu un article qui m'ait drivé du trafic ou quoi que ce soit. Ensuite, là, le truc que nous, on exploite pas mal en ce moment, c'est le CRM avec des bases amis où on fait des emails croisés.
Ouais, partenariat de...
Mise en avant de marques mutuelles, de bundles, de choses comme ça. En se disant, bah, OK, leur cible client, c'est X. Nous, notre cible, c'est Y. Voici ce qu'on s'apporte mutuellement. Et sur des marques, j'ai pas trop envie d'en citer, mais qui ont des profils consommateurs suffisamment argentés pour aller sur notre... Parce que nous, on a des produits quand même, la crème hydratante, elle est à 39 €. Donc, il faut pouvoir te l'offrir. Il y a ça. Et après, c'est contenu à mort. Et du coup, du blog pour le SEO. Même si, dès qu'on se fait sauter un moyen de paiement, on se fait pénaliser par Google parce qu'on passe en... Je suis encore en anglicisme, je suis désolée, mais c'est comme ça qu'il l'annonce. Untrustworthiness. On n'est plus fiable en e-commerce. Parce que le pire truc qui peut arriver sur un site e-commerce, c'est que ton paiement, il bug. Et là, ils se disent, mince, c'est peut-être un scam. Et donc, dès qu'on se fait sauter un moyen de paiement, on se retrouve dégradé.
Là, il faut recommencer.
Donc, le SEO, c'est pas là où on est plus fort, mais en tout cas, on crée beaucoup de contenu et il y a des mots sur lesquels on arrive à bien se placer. Le SIA, c'est une catastrophe. Et en plus, vu qu'on n'a pas de pixel avec Facebook, tout est toujours un peu une aiguille dans une botte de foin. Et après, tu vois, on a lancé notre podcast Au Calme, H-O-K-L-M, qui a pour but de déconstruire le stress. Donc nous, ça nous permet de nous légitimer en dehors du champ, parce que c'est quand même les choses qu'on a envie de raconter.
Et où là, on ne va pas te ban de...
Non, on a réussi à faire la sponsor sur le podcast. Parce qu'il a son propre compte Instagram en dehors, c'est pas avec ni mon numéro de téléphone, ni mon email. Parce que moi, ils montent tout. J'ai même plus PayPal à titre perso.
Toi, t'es blacklisté partout.
Je peux pas payer en Lydia. Donc, tu trouves des solutions, mais c'est vrai que c'est pas très héroïste.
Oui.
Moi, je suis pas une personne très héroïste. Ma boîte est pas super héroïste, je dois l'admettre.
Mais il faut aussi que tu jongles avec toutes les difficultés qu'on te met aussi sur ce sujet-là.
Mais tu vois, ça, encore une fois, pour rebondir sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas pour faire de la philosophie de comptoir, mais en fait, tu peux toujours te victimiser et dire c'est la faute des autres, ils me mettent des difficultés. Mais moi, je l'ai choisi d'être dans le champ. Et c'est... Je l'ai aussi fait parce que j'aime le combat, j'aime dénouer des injustices, etc. Donc, je me le suis un peu imposé à moi-même. Donc, je peux critiquer Meta, et puis critiquer les grosses boîtes, ça me fait toujours plaisir. Mais je me le suis imposé, tu vois. Et là, quand je te dis, en fait, on est en train de travailler sur les psychédéliques, parce que après le syndicat professionnel du chanvre, où il y avait beaucoup de mecs, et où quand le CBD a explosé, j'ai pas trop aimé un peu les énergies qu'il y avait là-dedans, j'ai cofondé le réseau Entourage Network, qui est dédié aux femmes dans les industries du cannabis et des psychédéliques.
D'accord.
Et donc là, on est en train d'avancer beaucoup. Les psychédéliques, par exemple, t'as une grosse étude à Sainte-Anne qui va être lancée en 2023 sur l'utilisation de la MDMA pour lutter contre la dépression. Ouais. Tu vois, c'est des sujets qui m'intéressent énormément, tout ce qui est lié à la santé mentale. Et du coup, on est en train déjà de regarder comment on peut intégrer les psychédéliques dans Cannes. C'est un nouveau fardeau, tu vois. Mais je ne me l'impose pas, j'y vais avec plaisir. Parce que c'est un fardeau que je trouve... c'est un fardeau économique parce que ce n'est pas facile d'y aller. Mais quel challenge, tu vois. Ouais. Et ça, c'est intéressant de se dire, OK, bah, j'aime bien relever des petits challenges, résoudre des problèmes.
Et c'est là aussi que résonne ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu fais ta marque, c'est ce qui doit vibrer dans le cœur et de ce qui t'intéresse.
Bah ouais, parce que alors, là où j'ai fait un gros travail, c'est sur distancier au carême de moi-même. Mmh. Parce que et pour ça, j'ai créé une autre entité avec une holding. Maintenant, je facture à Ocaran via une holding. Avec cette holding, je fais d'autres activités. Parce que le risque, à un moment, quand tu confonds les deux, c'est de plus être capable de t'identifier en dehors de cette marque et donc de mettre tout ce que tu as envie de faire dedans. Ouais. Or, il y a plein de choses que j'ai envie de faire qui ne sont pas logiques à mettre dans Ocaran. Par exemple, j'ai ouvert un petit co-living parce que on en parle peut-être, mais j'étais nomade pendant un an et du coup, moi, j'avais ce sujet de comment tu gères les déplacements entre Paris et la province ou l'étranger. Bon, bah ça, heureusement que je l'ai pas mis dans Ocaran parce que ça n'a absolument rien à voir. Et donc, à un moment, il faut réussir, même si Ocaran, je mets plein de projets et de convictions dedans, il y a des choses que je dois faire en dehors. Et donc, une des solutions, et je trouve qu'on n'en parle pas trop, mais en tant qu'entrepreneur, c'est de créer une holding sur laquelle j'ai 100% des parts. Je suis salarié de cette holding et cette holding détient mes parts dans Ocaran.
Oui, c'est vrai que c'est des montages dont on parle très peu, ouais. En fait.
Et vraiment, moi, ça m'a libérée de plein de trucs.
Et t'as été conseillée pour là-dessus ?
Ouais, en fait, c'est post-sauvegarde, on en discutera peut-être, mais en 2020, bah, parce qu'on n'a jamais eu de sub d'emprunt bancaire.
Puisqu'on s'est arrêté du coup aux 300 000 tout à l'heure. On est aux 300 000 euros que tu as eu auprès de Business Angel. Et j'imagine qu'après, bah, y avait à nouveau plus de cash.
Bah oui, oui. Bah, tu me connais déjà. Elle est vachement plus forte pour les dépenser que pour les gagner.
Non, mais c'est aussi un marché qui demande
c'est vraiment
énormément d'argent. Voilà.
Écoute, oui, on a dû à plusieurs petites reprises. Alors, j'ai fait un truc qui s'appelle les BSAR.
Oui.
Très mauvaise idée, dis donc. Et en plus, j'avais des entrepreneurs type Thierry Van de Val qui m'avaient dit « c'est pas une bonne idée, je l'ai fait quand même ». Eh bien, j'aurais pas dû. Parce qu'en fait, en termes de valo, ça cale mal les trucs et il y a toujours des gens qui se sentent lésés. Enfin, voilà. Mais j'ai fait deux poches de BSAR comme ça pour permettre d'avancer. Et pour te la faire courte, avec des entrepreneurs Business Angel, et on a un fonds d'investissement qui est rentré chez nous, mais un tout petit ticket, parce qu'en tout, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis quand même, ils ont mis 200 000 euros chez nous. Mmh. C'est Utopia, oui. Qui est un très très joli fonds, où j'aime beaucoup la philosophie, j'aime beaucoup les gens, mais c'est vrai qu'ils sont allés, normal, hein, le CBD c'était un sujet un peu compliqué, donc ils sont venus un peu avec le petit orteil pour voir ce qui se passe. Et nous, après, on n'a pas eu les chiffres qui permettent de faire, parce qu'aujourd'hui, ils ont tellement de cash... de fonds à disposition qu'ils font des levées de 3, 4 millions. Et là, on n'est pas encore à ce besoin-là. Donc voilà, on a Utopia quand même qui est chez nous et on est très contents de les avoir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que donc 2020, là, on est à 80% du business en retail. On vient d'ouvrir notamment Sephora en Espagne avec 50 points de vente, le UK, les department stores. Et on fait très peu de online parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, on n'est pas bon en e-commerce.
2020, c'était le début du retail ?
Non. Bah, 2020, j'avais déjà fait Nature et Découverte. On était rentré dans les 90 points de vente de Nature et Découverte.
T'étais pas chez Pyramide aussi, le premier
Ouais, au Carrousel.
Au Carrousel du Louvre.
Après, en termes de serre, honnêtement, c'était complètement anecdotique. Mais ouais. Ce qui m'a vraiment porté, c'est un Sephora. Ouais. Parce qu'on est arrivé sur leur online en 2018, suite à l'accélérateur. Ensuite, on est arrivé dans les 900 points de vente en Beauty to Go. C'est un petit corner près des caisses. Ça fait beaucoup de points de vente, mais en fait, la marge est très faible parce que c'est des petits produits près des caisses. Mmh. Et tu fais ça dans des coffrets. Les coffrets, les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, ça coûte vraiment... c'est une douille. Et du coup, je n'ai pas vraiment gagné d'argent là-dessus. Mmh. Et derrière, on a ouvert Sephora en Espagne, puis des department stores, etc. J'avais essayé les pharmacies à plusieurs reprises, mais je me faisais toujours jeter parce que le pharmacien, tu vois, très conservateur, le chanvre, c'est pas du over-the-counter. Et donc, on avait une présence... tu vois, wholesale, physique. Et donc, très peu de online. Et en mars, donc, arrive ce fantastique Covid et confinement. Et donc, moi, tous mes wholesalers, ils ferment.
Oui.
Et je venais de staffer en mode commercial, animation sur point de vente, qui a compte manager, enfin, voilà. Et à l'époque, j'avais un bureau à Nantes, un bureau à Paris, et je faisais des allers-retours entre les deux. J'étais restée à Nantes par l'histoire de la marque. Donc, j'avais commencé à staffer sur Nantes et je me suis quand même rendu compte très rapidement que c'était limitant d'être à Nantes dans mon business. Je suis très admirative des boîtes qui ont réussi à se développer à Nantes. Moi, j'ai jamais réussi et je me suis installée à Paris en avril, finalement, après 7 ans, parce qu'en fait, c'était trop compliqué de pas être ici. Donc ouais, je faisais ces allers-retours, ce qui était quand même assez épuisant et pas très malin en termes d'organisation d'équipe. Tu dois gérer, j'avais mon pôle commercial en gros à Paris et les ops à Nantes. Et donc là, on ferme les bureaux et on se retrouve dans la mouise parce que on n'a plus de cash. Moi, j'ai pas les PGE. Ça, le quoi qu'il en coûte, je l'ai pas vu passer. Tu vois, j'ai pas eu une seule sub. Enfin, on n'a jamais eu de subvention. Ouais. J'ai eu des prêts d'honneur, mais je n'ai jamais eu une seule subvention.
C'est pas considéré comme innovant.
Alors, on a eu tout ce truc à Nantes de la conseillère qui disait « Mais alors, vous faites de la cuisine ?» Quand tu lui parlais, c'est juste des recettes que tu assembles. J'étais genre « Ok !» Alors que toi, tu sais, tu passes un jour par semaine à faire du lobbying pour changer les réglementations, faire bouger les lignes, etc. Et puis elle t'explique « Oui, bon, tu mets juste deux ingrédients ensemble, mais c'est pas très compliqué. » Donc, il y a eu ça. Et après, il y avait toujours ce fond du chanvre qui vraiment
qui était
les dérangeait. Et encore BPI aujourd'hui, ils ont fait des grands colloques pour dire « Oui, on va soutenir les industries du chanvre. » Et puis après, tu retournes les voir, ils font « Ouais, non, mais en fait, pas tout de suite. pas comme ça. Peut-être une aide à l'innovation, R&D. » Donc voilà, donc on n'a jamais eu de matelas, mais c'est très bien de ne pas avoir d'aide publique. Tu vois, je sais pas si c'est parce que j'en ai pas eu, mais c'est vrai que je me suis toujours dit « Mais en fait, toutes ces boîtes qui sont subventionnées par des aides, en quoi c'est qui leur client ?» est-ce qu'elles ont légitimité à être là aujourd'hui?
Puis au moins, t'es obligé de chercher des solutions.
Ah bah là, t'es obligé de faire du chiffre d'affaires.
D'être agile.
Mais du coup, on s'est quand même retrouvé sacrément dans la mouise. Donc même en enlevant les bureaux, même en...
Donc du coup, tu te retrouves confinement.
Ouais.
T'as recruté des gens qui ne peuvent pas aller bosser parce que...
Non.
Voilà. Donc chômage technique, il se passe quoi à ce moment-là?
Eh bien, il se passe qu'on avait été... on avait au Capital une grande famille de la cosmétique bretonne qui venait de rentrer un petit peu parce qu'il y avait plein de synergies intelligentes à faire ensemble. Et on devait en fait boucler une vraie levée enfin avec eux en juin. Enfin, on devait la boucler pendant le confinement. Mais donc, on a fait tous les papiers, on a fait ce fantastique pack d'associés où il n'y avait plus qu'à mettre le stylo dessus. Et grande confiance, tout va bien se passer. Notre site e-commerce décolle pendant le Covid, donc au moins, il y a ce truc-là.
Un point positif.
Voilà. Et en juin, ils me disaient, en fait, nous aussi, on a pas mal souffert du Covid, du coup, ciao, quoi. Et en fait, moi, je me retrouve avec trop de cash énorme. Et là, j'avais eu pas 1000 solutions. Et du coup, j'avais un DAF à l'époque, un DAF part-time, Erwan, qui est super, qui était à 3 jours par mois. Et on pose les cartes un peu de manière très honnête face à nous. C'est soit tu fermes la boîte, soit tu es obligé de faire une cure de vache maigre hyper violente. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle une procédure de sauvegarde.
Tu peux expliquer ce que c'est?
Ouais, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans l'entrepreneuriat, alors que là, tous ceux qui ont des PGE, qui doivent commencer à les rembourser, là, je me félicite. En fait, ce travail que certains sont en train de faire maintenant, moi, j'ai dû le faire pendant directement le Covid, parce qu'on n'avait pas trop le choix. En gros, tu as plusieurs étapes quand tu es entreprise en difficulté. Tu peux soit tenter un petit accord à l'amiable en amont avec tes fournisseurs pour échelonner les factures, mais bon, ça, généralement, tu n'as pas la réactivité pour le faire assez vite, la trésorerie. Ensuite, tu as sauvegarde, redressement, liquidation. Donc, c'est un tribunal de commerce. Tu as plusieurs étapes. Sauvegarde et redressement, en vrai, c'est sensiblement différent. C'est juste que le redressement est plus protecteur, notamment sur la dette URSSAF. Mais dans la tête des partenaires, ça fait hyper peur quand tu dis une boîte est en redressement. Du coup, pour des raisons marketing, j'ai choisi la sauvegarde. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour cette raison-là, on a pris sauvegarde.
Conseillé par ton DAF?
Ouais, conseillé par mon DAF. On n'était pas du tout au stade de la liquidation, mais si on ne voulait pas y aller, il fallait agir, prendre des mesures. Et là, j'ai fait un truc qui a été extrêmement violent, c'est que j'ai dû tout couper. Et c'est-à-dire, j'ai licencié l'intégralité de mon équipe, plan économique.
Combien de personnes?
13. On avait suffisamment d'argent pour pouvoir payer ce licenciement, parce que ça coûte cher de licencier les gens. J'avais la possibilité de recaser tout le monde, parce qu'avec mon réseau, c'était pas trop un sujet. Mais putain, quand toi, t'es entrepreneur et que tu dois construire, déconstruire, c'est hyper violent. Quoi. Donc là, pilote automatique, j'ai eu la chance d'avoir Erwan à mes côtés, qui sinon ça aurait été vraiment... J'avais l'énergie pour essayer de trouver plein de solutions pour relancer la boîte, mais j'avais pas l'énergie pour gérer les avocats, le tribunal.
Parce que là, tu te retrouves toute seule à devoir tout gérer.
Ah oui. Après, j'ai vite repris 2-3 stagiaires histoire de repartir, mais il y a eu une période où Et ensuite, j'ai reconstruit la marque avec que des freelances parce que j'étais un peu dégoûtée forcément de plein de choses dans l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai choisi un autre modèle. Et puis là, on est en train de re-switcher en intégrant tout le monde parce qu'on est sur Paris. Mais oui, donc il y a eu cette procédure sauvegarde. Et en fait, on en parlait parce qu'on parlait de la holding. Et à ce moment-là, c'est là où je me suis dit, ok, en fait, si O'Karen s'effondre, c'est ta vie qui s'effondre, c'est pas normal. Donc, comment est-ce que tu fais pour vivre en dehors d'O'Karen, arrêter de mettre tous tes projets là-dedans et essayer aussi d'être autonomisé de ton côté financièrement, surtout que je ne m'étais jamais vraiment bien payée. Tu vois. Ben, au début, je ne me suis pas payée pendant 2 ans. Je vivais sur cet emprunt étudiant, mais quand tu viens avec 800 euros par mois,
parce que comme tu étais stagiaire dans ta propre entreprise, tu n'avais pas le chômage.
Non.
Voilà, donc c'est ce prêt étudiant qui te permettait de...
Je bossais, je faisais des extras en boîte de nuit, enfin des trucs qui te niquent la santé. Et après, je m'étais très faiblement payée parce qu'on a eu 2 premiers business angels qui ont mis 10 000 balles dans ma boîte, qui très intelligemment proposaient que je ne sois pas payée pour qu'on puisse payer un agronome à ma place. Donc en fait, vas-y pour demander de l'argent et un salaire quand on te dit que ta valeur, elle est là. Donc j'ai toujours été un peu en mode je m'excusais de travailler. Et je ne sais plus à qui je disais ça l'autre fois, mais c'était un peu genre escalader l'Everest à poil avec un piolet, tu vois. Ouais. À un moment, ce n'est pas possible. Donc la première chose que j'ai fait, c'est travailler sur ma valeur, travailler sur mon rapport à l'argent.
Et ça, tu t'es fait accompagner ?
Ouais, par Florence Mine, qui est une coach incroyable. Elle est plutôt spécialisée femme entrepreneur, mais je pense qu'elle peut travailler aussi avec des hommes, mais elle est très forte pour les femmes. Parce qu'on a plein de verrous, de croyances limitantes sur l'argent. Au début, j'ai fait des coachings d'une heure avec elle. Et à chaque fois que je faisais un coaching avec elle, je doublais ma rémunération. C'était fantastique.
C'est bon, à un moment, peut-être pas ça.
Non, et après, j'ai fait une retraite avec elle qui était vraiment très, très bien avec d'autres femmes entrepreneurs.
Ouais.
Et moi, ça m'a débloqué pour plein de choses, même dans mon processus commercial. Là, quand je négocie avec des gens, négocier en RH les salaires et tout ça, je trouve que c'est vraiment très, très important de savoir parler d'argent.
Parce qu'en effet, on ne l'a pas précisé, mais tu es solo founder.
Ouais.
Je pense qu'on l'a compris au fil de cette discussion, mais je préfère le redire. Donc, c'est vrai que traverser tout ça toute seule, même si tu as ce DAF, tu as tes équipes, mais les équipes, elles peuvent être hyper supportives, mais elles ne peuvent pas comprendre tous les tenants et les aboutissants parce qu'elles ne sont pas dans le truc.
Ouais, et puis à un moment, quand c'est la merde, tout le monde te pointe du doigt. Et
voilà, c'est toi qui as fait.
Et c'est toi qui dois être responsable. Tu vois, et puis tu l'assumes, cette responsabilité, ouais. Hein, parce que c'est trop facile de se délester sur les équipes en disant qu'ils n'ont pas réussi à vendre. Tu vois. Donc oui.
Donc tu as eu cette coach qui t'a, qui t'a aidé.
Que je recommande très, très, très chaudement. Changer sa relation à l'argent et donc commencer par changer ma relation à moi-même et à ma valeur. Mmh. Et étonnamment, tout s'est débloqué. Ensuite, comme j'étais un peu fatiguée, franchement, ça m'a un peu mis sur les rotules toute cette histoire.
Plus le contexte général qui était quand même assez épuisant.
Ouais, assez épuisant. C'était assez fantastique de voir que le e-commerce partait et devenait notre premier canal de revenus et on pouvait créer plein de choses. Mais là, je me suis dit, quand j'étais confinée à Nantes, dans mon petit appartement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Tu vois, moi, tous mes potes, ils étaient partis faire des stages à l'autre bout du monde, puis ils avaient pris des jobs dans des boîtes, ils avaient beaucoup voyagé, beaucoup profité, ils avaient fait des road trips, des trucs. Et toi, t'es là à bûcher et tu sais plus très bien à un moment pourquoi tu t'infliges tout ça. Et je dis, j'aimerais bien partir moi aussi un peu à la découverte du monde, tu vois, profiter et souffler. Et surtout, je savais plus pourquoi j'étais à Nantes. Parce que j'aime être au bord de l'eau, je fais de l'apnée, je fais de la voile, enfin, j'aime l'eau. Et Nantes, en fait, c'est la boule à 40 minutes. Bon, c'est pas ce qui m'emballe le plus. Donc, j'avais besoin de partir et en fait, j'avais pas eu le courage avant. Ça faisait longtemps que je me retrouvais plus à Nantes et que je faisais ces allers-retours avec Paris. Mais Paris, ça me draine trop d'énergie. Enfin, vraiment, ça m'épuisait. Et puis, vivre à Paris dans des mauvaises conditions, ça vaut pas le coup. Donc, j'étais un peu dans un entre-deux depuis un moment. J'avais eu le courage de prendre aucune décision et donc, je m'étais infligé ça, quoi. Et donc là, c'était un fantastique, c'était une belle excuse. On n'avait plus de bureau, on n'avait plus d'équipe, je reconstruisais tout avec des fris. Et du coup, j'ai lâché mon appart, j'ai vendu toutes mes affaires et je me suis barrée avec 2 valises en me disant, je vais un peu découvrir le monde. Et donc, je ne m'étais pas mis de date limite, mais il se trouve que ça a fait un cycle d'1 an.
Okay.
Je venais à Paris 3-4 jours par mois pour gérer le business.
Ouais.
Et sinon, je gérais tout à distance.
Bord de l'eau.
Ouais, donc le Portugal, les Baléares, les Canaries, la Croatie, l'Espagne, enfin voilà, Biarritz, Marseille. Et je suis allée voir des gens que j'avais jamais eu le temps de voir depuis longtemps. Je suis allée recréer du lien social. Même si j'étais seule pendant ce voyage, encore une fois, finalement, j'ai vu plein de gens fantastiques que j'aimais beaucoup. Et puis, avoir un peu une boulimie de découvrir plein de trucs.
Une source d'inspiration aussi.
Ouais, de fou, de fou.
Et donc, tu as remonté O'Karen ?
Ouais,
À distance, toute seule, avec des équipes de free sur certains sujets.
En fait, j'ai remonté d'un point de vue équipe, mais après, d'un point de vue chiffre, on a fait ISO 2019-2020.
Ok.
Ouais. On a réussi grâce au online, en fait.
Ouais.
Et après, 2021, on est reparti avec 50% de croissance parce que bah, finalement, le online nous a été une bonne traîne pour nous. Et puis là, 2022, l'e-commerce, pff, patatras, avec la guerre en Ukraine et tout le monde souffre. Donc, hop, il faut être malin, revenir. On vient d'ouvrir 150 pharmacies. Tu vois, ils me disaient non en 2017 et finalement, c'est eux qui viennent nous chercher maintenant. Enfin, donc, flexibilité, agilité et on a ouvert le centre de soins. Voilà, c'est ça aussi que je voulais en fait raconter. C'est que au bout de quelques mois dans ce voyage où j'ai récupéré de la patate, de l'énergie, où je me suis rappelé un peu pourquoi je faisais les choses, il y a ce projet d'ouvrir un centre de soins. Alors à la base, c'était qu'une boutique de 40 mètres carrés, puis ça, c'est un peu grossi en cours de route. Je l'avais depuis 4 ans. Kylian, qui est mon cousin, archi designer, qui avait fait les packs de Ocarina pour Hommes avec André Breton, parce qu'on a beaucoup d'humour, c'était lui qui les avait fait. On avait fait des packs surréalistes. Quand je te dis, on a fait beaucoup d'erreurs. Ça, c'en était une. Mais c'est qu'est-ce qu'on a ri. Et donc, lui, il m'avait fait les premiers plans de boutique il y a 4 ans, tu vois. Et moi, ce concept d'un lieu qui soit aussi un lieu où on va manger, etc., ça, c'est petit poussé, l'incubateur pour étudiants entrepreneurs dont je te parlais, je lui avais fait tout un laïus là-dessus, écrit. Il m'a dit, pense au Caran, et ben c'est ça, en fait. Donc, au bout de quelques mois, je me suis dit, OK, on va faire un centre de soins. Là, mon def, il me dit, mais t'es une tarée, on est enfin dans un semblant de zone de confort, et t'es en train de nous remettre encore dans le rouge et tout. C'est pour ça qu'on ne travaille plus ensemble aujourd'hui. Je pense que je l'ai épuisé. Mais c'était une décision que j'ai prise. Et donc, en septembre 2020, alors que les investisseurs nous disaient « Mais n'importe quoi, le retail, c'est trop compliqué, c'est pas le moment, on sort de Covid. » J'ai dit « Si, si, on va faire du retail. » Et du coup, j'ai trouvé le lieu qui, forcément, était 3 fois plus grand que ce que je cherchais à la base. Bon, t'inquiète pas, j'ai mis des activités dedans. C'était pas trop un souci de trouver comment le remplir. Et Kylian a fait ces magnifiques plans où tout est en chanvre, parquet en chanvre, mur en chanvre, les briques de chanvre pour faire des meubles. On a bossé avec l'agence RDI, qui est notamment l'agence qui fait les boutiques Hermès, qui nous ont fait un mécénat pendant le confinement. Déjà pendant le confinement, alors qu'on était dans cette galère de sauvegarde, moi j'étais en train de bosser sur des matériaux tout en chanvre pour pouvoir penser le retail du futur.
Et c'est peut-être aussi ce qui t'a donné envie de continuer.
Il faut garder le rêve. Tu peux pas être que dans le.
Toi, c'est ce qui t'a tenu, en fait.
C'est la vision, c'est la profonde conviction que je suis à ma place, qui a besoin de le faire. Alors, pas que je sois utile, j'ai pas la prétention d'être utile, mais en tout cas que je suis utile à moi-même et que je fais des choses qui font tellement de sens pour moi que j'espère que ça en fera pour d'autres. Et donc, oui, c'est ce qui te permet de continuer.
Et de pas avoir envie de tout arrêter.
Mais alors que si tu le fais en disant je vais revendre un jour, évidemment, quand t'es dans le creux de la vague, tu te dis je vais jamais réussir à m'en sortir, j'aurai pas mon objectif. Moi, j'ai pas d'autre objectif que juste prendre du plaisir, faire des choses qui font énormément sens, dans lesquelles je me reconnais, je suis alignée, ou le matin je me réveille, je suis contente.
Et comment t'as financé cette boutique?
Le centre, pareil, je me suis dit purée, on arrive en 2022, ça commence à s'ouvrir. Et puis, on fait des travaux. Je ne suis pas en train de financer des produits en chambre. Je suis en train de financer des travaux dans un centre de soins. Eh bien, il n'y a aucune banque qui a voulu nous suivre. Et cette fois, alors la moitié, c'est à cause du chambre. Et l'autre moitié, c'est à cause de la sauvegarde. Parce qu'en fait, même si moi, je suis sortie de procédure sauvegarde un an après, tout pile, on est repassé devant le tribunal, le plan de sauvegarde, on n'était pas assez rentable. Et du coup, on sort de sauvegarde. Sauf que tu as un plan qui est allé sur 9 ans de dettes à rembourser. Et moi, c'est 9 000 euros par an. C'est complètement ridicule.
C'est ridicule, oui.
Mais du coup, pour la Banque de France, je suis toute rouge avec une petite croix. Là, je ne sais plus c'est quelle lettre qu'ils nous ont mis, DCM ou X. Mais du coup, on est étiqueté par la Banque de France. Et donc, le fameux Crédit Mutuel de Bretagne, j'aurais dit, écoutez les gars, je rembourse tout le plan de sauvegarde d'un coup, on sort de sauvegarde, est-ce que vous nous faites l'emprunt pour les travaux? Au début, ils étaient oui. Et puis au dernier moment, ils se disent, non, parce qu'en fait, même si vous le faites à cause du champ, on ne vous suit pas. Et c'est tout le temps comme ça, enfin, tu vois. Du coup, au bout d'un moment, ça m'a saoulée et je me suis dit, en fait, on essaye de faire un centre responsable avec une architecture responsable et on fait du financement avec ces vieux acteurs tout pétés qui sont encore en train de financer les énergies. Enfin, tu vois, qui sont à la BNP. J'étais là, pourquoi je suis en train de faire des courbettes à la BNP alors que quand je vois comment ils utilisent notre argent. Et du coup, je me suis dit, où est-ce qu'on peut aller chercher des gens qui ont envie de financer des beaux projets? Et donc, il y a une plateforme qui s'appelle Lita, qui permet de faire soit des actions, soit des obligations. Donc, il passe au filtre. Il y a eu plusieurs comités de sélection pour qu'on corresponde à ce qu'ils ont en termes de vision écologique et environnementale. Il se trouve qu'ils n'avaient jamais fait de cosmétiques parce qu'ils ne trouvaient pas de marque vraiment qui faisait sens et ils aimaient ce qu'on faisait sur l'intégration de la filière chambre. Et du coup, on a levé Vialita, donc c'est des investisseurs citoyens. Mm-hmm. Moi, j'ai fait des obligations parce que je voulais de la dette. À la base, je ne voulais pas encore faire passer en equity. Mais donc, on a fait en obligation et c'est ça qui a financé les travaux du centre.
Génial. Qui a ouvert
cet été, mais en fait, l'inauguration, c'était en septembre. D'accord. Septembre 2022, 7 septembre, donc c'était il y a un peu plus d'un mois.
Et qui est rue de Bretagne, je crois.
Oui, rue de Bretagne, et on a une grande verrière. En fait, tu as une partie boutique, tu as une partie, alors ce qu'on appelait le CBD Aquabar, mais c'est des boissons fraîches, chaudes, des encas sucrés, salés, tout en chambre. Donc, ça permet de valoriser les crènes de chambre, l'huile de chambre, les cannabinoïdes, la farine, la protéine, etc. On aura une terrasse à partir d'avril avec 20 places. Ensuite, tu as le spa, donc cabine de massage, bulle de flottaison. Ça, c'est le truc le plus déstressant au monde. Il faut que vous testiez. Hammam. Et dans l'espace central, qui fait un peu plus de 40 mètres carrés, on a un espace de vente, concept store avec des marques partenaires autour du chambre et du no-stress. Et c'est un espace qu'on transforme pour faire des ateliers, méditation, respiration, des tôles qu'on peut mettre plus de 40 personnes. Voilà.
Génial.
Ouais.
Tu nous as déjà raconté beaucoup de premières fois.
Oui.
Mais si je te dis premier renoncement.
Le premier renoncement, c'était quand même celui de quand je me suis retrouvée en mode mais j'ai fait une énorme bêtise, j'aurais pas dû faire une marque pour homme, je dois recommencer à zéro. Et j'ai eu, je te jure, 24 heures, mais down. Je ne suis pas du tout à un tempérament dépressif de base, etc. Je ne savais pas ce que ça pouvait être. Et j'ai été là, mais. Enfin, un gouffre, tu vois.
Ouais.
En fait, on parle de... J'ai là 40 000 euros d'aide, de machin, de trucs. Et je me suis dit, je suis encore étudiante. J'ai fait une énorme bêtise. J'aurais pas dû faire ça. Comment je vais faire? Enfin, tu vois, genre vraiment ce... Et 24 heures après, j'étais à... Oh, un nouveau projet, une feuille blanche. Fantastique, j'adore ça. Donc, ouais, ça, c'était vraiment la première fois où j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds.
Ton premier coup de culot?
Franchement, je crois que quand je suis allée voir les banques en mode trop sereine, avec mon business plan fait, je sais pas comment, c'était assez culotté. Mais ce qui m'a amenée à faire ça, c'est en gros, en première année d'école, on avait un cours d'entrepreneuriat où on devait monter un business plan. Et moi, j'avais dit à mon équipe, franchement les gars, j'ai une super idée, on va faire des cosmétiques en chanvre qu'on vendra en pharmacie, c'est génial, je m'occupe de tout. Enfin, j'étais tellement motivée par le projet, et pourtant Dieu sait que la motivation...
Donc les autres du groupe étaient trop contents.
Bah oui, parce que vraiment, s'il y a bien un endroit où on ne travaille pas, c'est en école de commerce. Et du coup, je fais le business plan et tout, j'étais trop contente, et on le présente, et là, on se prend un énorme bash par le prof d'entrepreneuriat, parce que tu sais, les autres, ils faisaient des apps, des machins digitaux.
Tu y as refait coucou depuis? À ce prof.
Ah ouais, mais en fait, après, c'est lui qui m'a fait rentrer dans l'incubateur. Ouais. Il avait complètement oublié. Voilà.
Bon.
Il avait complètement oublié. Et après, malheureusement, il est décédé. Et quand, à la remise des diplômes de Nancy, ils m'ont remis le prix de l'entrepreneuriat. Et j'ai pu me permettre de lui faire un joli hommage. Parce que s'il ne m'avait pas mis une telle bâche, je ne me serais pas autant remontée. C'est ça qui a fait que derrière, j'ai fait un stage dans la cosmétique. J'avais imprimé mon business plan. Il y avait le concours du Mouji. Donc, on parlait de Thomas tout à l'heure, qui était au Mouji avant. En fait, moi, j'étais allée, genre, trop naïvement. Je me suis dit, OK, si j'ai une sale note sur ce business plan, peut-être que des vrais entrepreneurs penseront autre chose. Donc, je l'avais soumis. Évidemment, bon, ça n'avait pas été retenu. Mais j'avais été invitée à la soirée, à la Gaîté Lyrique. Il y avait Arnaud Régal. Ouais, Primoji. Mm-hmm. Et à l'époque, ils remettaient le prix à Fagot, à Marlette, donc les chaussures, les préparations culinaires.
C'était les tout premiers Primoji, ça.
Ouais. Et Arnaud Legal, le rédac en chef des Échos, était sur scène. Il était là, les gars, ça, c'est les boîtes du futur, c'est les entrepreneurs de demain. Et moi, je dis, non, mais c'est le chanvre. Enfin, tu vois, genre, OK, les gâteaux et les chaussures, mais en vrai, l'entrepreneur de demain, c'est le chanvre. Et du coup, j'étais allée le voir à la fin, en mode, Arnaud, parce que Legal, c'est breton. Mm-hmm. J'étais là, Arnaud, vraiment, il faut qu'on parle. À l'époque, la Bretagne, je la mettais pas autant en avant. Je venais de trouver le nom au Caran, mais il faut que ton chanvre, il soit fait en Bretagne, parce que mes grands-parents, ils étaient plus agriculteurs, ils étaient à la retraite, et mon oncle avait repris la partie bovin. Mais voilà, il n'y a plus. Et donc, il fallait que je construise mes partenaires, et donc c'est là, après, que j'ai pris ma petite voiture, et je suis allée voir Christophe Latouche, notamment de El Chanvre, qui a été notre tout premier partenaire en Bretagne, et puis qu'on a construit le réseau comme ça.
Alors, tu sais que pour la petite histoire, maintenant, Arnaud Legal co-anime les remises de Primoji avec Thomas.
Mais non, je ne sais pas s'il se souviendra de moi.
Bah écoute, au prochain Primoji, je pense qu'on peut peut-être...
On enlèvera la partie sur le whisky.
Voilà.
On était autour d'un joint en champ.
D'ailleurs, tu parlais du Mouji, du coup, d'accompagnement. Donc, le Mouji, ça n'a pas marché
non.
À ce moment-là. Par contre, tu as été accompagnée.
Ben alors, ça n'a pas marché. Je ne sais plus comment. Ils m'ont quand même proposé d'avoir un mentor.
Ouais.
Et en fait, moi, à l'époque, j'avais une chance de fou. Et c'est là où l'écosystème de Nantes est vraiment cool.
Oui, parce que ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas le prix que tu n'as pas de mentor.
Ouais,
en effet, si tu as moins de 30 ans et que tu es entrepreneur, tu peux être mentoré par le Mouji.
Et en fait, moi, quand j'étais à Audency, enfin, en dernière année d'entrepreneuriat, j'avais pris la tête d'une asso qui s'appelle le Mashup à Nantes, qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat étudiant. Et du coup, on organisait des conférences avec des entrepreneurs et tout. Et c'est ce qui m'a permis d'un peu de rencontrer les entrepreneurs cool de Nantes qui montaient. Je trouvais que j'avais pas une aide incroyable dans l'incubateur, parce que c'est des profs, t'es des profs de logistique, profs de machin, ils sont très gentils. Mais en fait, t'as besoin de te confronter à des gens qui
ont mis les mains dans le cambouis un petit peu.
Et donc, c'est comme ça que j'avais pu rencontrer Michael Froger, le fondateur de Lengo. Ce qui fait qu'après ma première levée de fonds, j'ai pu prendre des bureaux dans ses bureaux et il m'a beaucoup aidée. Enfin, c'est un putain de mentor, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés. Et donc, quand le Mouji nous a dit, m'a dit OK, tu peux avoir un mentor, j'ai proposé à Mika qu'on contractualise via le Mouji, mais ça nous a vite saoulés tous les deux parce qu'il fallait faire des comptes rendus, des machins. Alors qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'est on se chope à la machine à café, j'ai une question RH, son RH me prend 5 minutes en bureau en mode vas-y, on en parle et il trouve une solution de deux. Enfin, c'était plus comme ça, on n'avait pas besoin d'aller faire des petits nos devoirs, tu vois. Et donc, c'est Michael qui m'a ensuite présenté Frédéric de Gombert. Enfin, tu vois, cet écosystème. Nantes était fantastique pour ça. C'est que quand t'es un petit poisson, mais aussi dans un petit bocal, bah, tu peux vite accéder à des gens.
À des gens, oui.
Alors que Paris, c'était plus compliqué. Mais Paris, j'ai fait partie de la première promotion de Station F.
Ouais.
Et du coup, c'est ce qui m'a quand même un peu lancé à créer des connexions sur Paris. On était dans l'incubateur du coup, de Xavier Niel, le founder programme. Tu vois, et donc des nanas comme Roxane Varza, jamais j'aurais pu y accéder si à ce moment-là, on n'était pas les tout premiers dans l'écosystème.
Donc solo founder, mais très bien entouré.
Eh bien, en fait, j'ai vite compris. Moi, en vrai, je ne voulais pas être solo. Hein. Au début, j'avais essayé de convaincre Kylian, mon cousin, qui est archi, de s'associer avec moi. C'est un projet qui est très basé sur des convictions personnelles qui ne sont pas simples à mettre en œuvre. C'est un projet sur lequel il y a eu beaucoup d'allers-retours et
de pivots.
Et en fait, je n'ai pas réussi à convaincre des gens. Enfin, j'ai essayé avec des potes qui étaient en finance et tout. Et en fait, je me suis dit, bon, j'avais l'énergie de le faire seule.
Ouais.
Mais c'est sûr que tu vas beaucoup plus vite, plus loin. Et là, j'ai une super brand manager maintenant à mes côtés. Et c'est une machine de guerre pour gérer les canaux de revenus. C'est sûr que c'est mieux à deux, hein. Y a pas photo.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Avec Okaran, c'est on se relaxe.
Ouais.
Là, l'idée, c'est plus de parler de toi. Moi, j'adore poser une question à mes invités. C'est à quoi tu jouais quand tu étais petite?
J'étais l'assistante de mon frère. J'avais un grand frère et donc je faisais tous les trucs pour l'aider. Il avait des fossiles, je les nettoyais avec ses brosses à dents, il construisait des carrioles, il me mettait dedans, il me lançait en bas de la route. On faisait des Legos ensemble, j'essayais de le battre au concours de Lego. Ouais, j'étais l'assistante de mon frère.
Et il y avait déjà des prémices dans certaines activités de ce qu'allait devenir ta vie et ton métier?
De quand j'étais petite? Écoute, à 5 ans, je me suis rasé le visage avec le rasoir de mon père.
Ah, c'est souvent un truc que font les petits garçons, ça.
Ouais.
Je sais que mon neveu a fait ça récemment.
Il y a des magnifiques photos où j'ai des énormes pansements sur le visage. Peut-être que c'était mes premiers pas dans un cosmétique programme, je ne sais pas.
Ah, peut-être. Et on en a parlé un peu tout à l'heure, tu disais que tu as voyagé, tu étais nomade pendant une année, c'est là que tu allais chercher ton inspiration. Tu as d'autres moments de respiration, d'inspiration pour justement continuer de créer et avoir envie?
Ouais, en fait pour créer, on a vraiment besoin de vide. Et dans la vie d'entrepreneur, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vide. Et moi, les moments où j'arrive à créer ce vide-là, quand tu parles de respiration, c'est plutôt en retenant ma respiration, c'est que je fais de l'apnée. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement calmant, reposant, déstressant. Et derrière, ça me donne une folle énergie. Et après, moi, l'expression de ma créativité, elle se joue beaucoup via les émotions. Et donc, je fais de la danse depuis très longtemps. J'avais fait partie d'une compagnie de danse quand j'étais plus jeune. Et ça m'a beaucoup manqué d'ailleurs quand je voyageais, parce que tu peux pas trop te greffer sur des studios de danse comme ça. Et une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment trop contente d'arriver à Paris là en avril, c'était pour aller au Studio Harmonique, qui est un studio avec des profs qui sont incroyables. Et donc, via la danse, je trouve beaucoup d'inspi, d'alignement et de temps off qui me permettent derrière de repartir.
Qui sont des moments où tu te poses. Et tu, j'imagine que tu as testé aussi tous les soins chez Au Calme.
Ouais, alors moi, je suis naturellement pas mal dans le corps. Enfin, je suis beaucoup dans la tête. Mais du coup, pour aller chercher de l'énergie, j'ai besoin de repasser par le corps. Et du coup, j'ai fait un peu tous les trucs que tu peux tester en médecine alternative, les Reiki, tous les massages, tous les trucs. Et là, je commence à sortir un peu de ça et à m'intéresser à des choses plus psycho, gestion des émotions, trucs comme ça. Mais ouais, le calme, je le trouve sur cet alignement psychocorporel.
Si je te dis sororité, ça t'inspire quoi ?
Bah là, c'est ce qu'on est en train de faire. Deux femmes qui sont en train de se mettre en avant l'une et l'autre. C'est un mot qui est devenu à la mode il n'y a pas très longtemps, je trouve, alors qu'on l'avait avant dans nos savoirs. Tu sais, quand il y a cette mode aussi des sorcières. Mais en fait, c'est quoi ? C'est des femmes qui se réunissent pour discuter, pour partager, pour faire ensemble. Et puis après, on a eu cette grande vague de femmes qui se mettent en compétition parce que d'un point de vue marketing, et mon industrie, l'industrie de la cosmétique, n'a pas beaucoup aidé. On a mis cette femme dans une posture de séduction. Séduction pour l'homme, mmh. Et donc en compétition pour l'homme, et donc on a un peu perdu notre sororité. Et je pense que tous ces systèmes financiers de domination capitalistique et sociaux, tout ça c'est très entremêlé. Moi je m'intéresse pas mal à l'écoféminisme. Oui. En fait, c'est juste la domination de l'homme sur la nature avec un grand H, la domination de l'homme avec un petit H sur la femme. Et donc nous, on s'est perdu là-dedans et on a perdu un peu de sororité, et c'est en train de revenir sur le devant de la scène et c'est fantastique, mais ça peut pas. Ça ne peut pas se penser en dehors de tout un système de domination qu'il faut revoir.
Si je te dis destinée.
Destinée. C'est une pression que les gens se mettent. Moi, tu sais, pendant un moment, je disais ma mission, c'est de. Avec Ocarane, j'ai trouvé ma mission de vie. Ou le chambre, c'est ma mission. On n'a pas de mission. Tu vois. On n'a pas de destinée, on n'a pas de mission. Enfin, destinée, il y a un truc qui ne t'appartient pas, donc qui est intéressant. Mais il faut sortir de ce truc de mon destin, c'est de. Ma mission, c'est de. Il faut juste se laisser porter, je pense.
Héritage ?
Bah, la Bretagne.
Et où dans Bretagne ? On n'en a même pas parlé.
Alors moi, j'ai grandi à côté de Rennes, mais ouais. Ma famille est du Finistère, Plouguerneau, Brest. Mais moi, j'ai grandi à côté de Rennes, ouais, dans une petite ville. Et après, héritage, c'est marrant parce que je suis partie avec des copines ce week-end à Annecy. On a fait un peu de randonnée, on a fait du parapente, tout ça. Et on parlait de l'injustice liée à l'héritage, notamment immobilier. Parce que là, à Paris, c'est hallucinant, plus de 100% en 13 ans. Enfin, il y a un truc à revoir, je trouve. Je trouve que la puissance publique n'est pas très... dans son rôle de répartition des richesses, il y a un truc qu'on a loupé, quoi. Et quand t'es à Paris et que tu commences à t'installer, à regarder un peu, est-ce que c'est un endroit où tu peux poser, créer tes racines et donc créer un héritage ? En fait, tu peux pas. Tes racines, tu peux pas les faire descendre dans le sol parce qu'on te bloque. Et donc, moi, je suis un peu une fille de l'injustice. Je pense que tu l'as compris à travers nos discussions. J'essaye de ne plus être dans la colère, mais il y a un truc de l'injustice. Et l'héritage, ça m'évoque des choses positives avec la Bretagne, mais ça m'évoque aussi une certaine injustice.
Et si je te dis ambition ?
Ben moi, je suis très ambitieuse. Non, et ambition, c'est marrant parce qu'avant de venir, là, je pensais à justement Fred qui, du coup, m'avait recommandé. Et le premier mot qui me vient chez lui, c'est humble. C'est l'entrepreneur le plus humble que je connaisse. C'est monstrueux. Et le truc qu'il m'a appris, c'est que tu peux être très humble, mais très ambitieux. Que c'est pas antinomique.
C'est pas un gros mot.
Ouais. En fait, que ça... C'est pas se la raconter que d'être ambitieux. C'est juste de l'ambition pour toi et pour le monde.
Et d'ailleurs, je suis tellement captivée par notre discussion que j'en oublie presque que Frédéric te posait une question.
Vous avez un message.
Laure, toi, on a beaucoup parlé de montagnes russes dans cet épisode. Toi, t'en as vécu un grand nombre, un très très grand nombre. Comment tu fais pour garder la foi constamment après tellement de rebondissements dans ton aventure ?
Déjà, il y a une chose qui est un peu injuste, qui est une nature. Je pense qu'on a des natures. Moi, je suis d'une nature positive. J'ai tendance à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à avoir les opportunités plutôt que les difficultés. La holding dont je te parlais tout à l'heure, je l'ai appelée Amour Citron, parce que tu as une phrase qui dit « When life gives you lemon, make lemonade ». Et ma vision d'entrepreneuriat, c'est ça, transformer une difficulté en une opportunité. Donc, je pense que...
Tu connais Make My Lemonade,
ouais.
Toi, Elisa.
Du coup, ouais, je connais. Alors, j'avoue que je n'ai jamais rien acheté, mais je connais. Et ouais, je pense que j'ai la chance d'avoir une nature qui me permette d'affronter ça. Et pourquoi je me suis lancée là-dedans, c'est parce que sûrement que je m'en sentais capable. J'avais un peu cette phrase de « je m'en sortirai toujours, je trouverai toujours une solution ». Et après, bah, c'est un moment sortir de cette position victimaire dont on parlait tout à l'heure. Oui, il y a des montagnes russes, mais j'en suis en partie responsable de ces montagnes russes. Donc je les assume. Et puis, j'essaye de prendre du plaisir. Oui, tu as une phase qui peut être très dure sur cette montée. Et puis, qu'est-ce que c'est excitant, cette descente. Tu vois, hier, dans une même journée, le matin, j'ai eu un call extrêmement désagréable avec un investisseur. Et l'après-midi, j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable qui peut-être va nous ouvrir des portes. Bah, moi, à la fin de la journée, j'étais juste trop contente. Tu vois, genre, j'ai gardé que le positif. Ouais. Tu vois. Donc, c'est aussi un choix que tu fais. Je crois que je dois avoir une mémoire extrêmement sélective et je ne garde que le positif.
Et une bonne nature positive.
Ouais.
Il y a une phrase qui dit que quand une entreprise réussit, c'est parce qu'il y a des décisions courageuses qui ont été prises. Toi, si tu devais décrire une décision courageuse que tu as prise pour la réussite d'Ocarane, ce serait quoi ?
Franchement, c'était cette sauvegarde. Parce que avant repartir d'une feuille blanche, on a fait 3 versions différentes pour s'orienter. D'abord, très concept store spécialisé. Ensuite, on a fait une version plus masse qui nous avait permis de rentrer chez Monoprix, chez Sephora, etc. Et après, on s'est repremiumisé parce qu'il y a une question de marge. Je voulais tout faire en France avec des produits extrêmement qualitatifs. Ben, en fait, tu es obligé de passer sur une marque premium quand tu as peu de volume. Donc ça demandait un peu de courage. Et c'est pour ça que parfois, les gens pensent que oui, il y a eu des montagnes russes, etc. Mais ça ne me demandait pas un courage en tant que femme. Ça demandait un courage en tant qu'entrepreneur. Quand tu dois convoquer une équipe autour d'une table et leur dire bah, qu'en fait, tu es désolé que tu leur as vendu quelque chose, mais là qu'on n'y est pas et que ça va s'arrêter. Là, tu touches à l'humain. Et d'ailleurs, moi, c'est marrant parce que ça m'a fait changer de profil psychologique. Tu sais, dans les tests MBTI.
Ouais.
Avant, j'étais INTP, c'est de mémoire. Enfin, j'étais I, j'étais introvertie. Et je suis passée E, extravertie, au fil d'Ocarane, au fil des difficultés, au fil des choses. Alors, je suis la plus introvertie des extravertis, mais ça, tu vois, je t'ai touché le micro. Ça m'a fait évoluer en tant que personne.
Parce que c'est notre projet !
L'enfer.
Si tu étais présidente de la République, quelle serait la première décision que tu prendrais ?
Je pourrais te dire que je légalise le cannabis et les psychédéliques, mais c'est trop attendu. Alors, il y a un truc. Alors, les gens vont encore se dire. De toute façon, à ce stade-là de la discussion, je pense qu'ils savent que je suis un tout petit peu barrée. Moi, je créerais les états généraux de l'humanité. Mm-hmm. C'est un truc que j'ai défendu. Tu vois, à Nantes, on avait le Startup Palace, qui était un espèce d'accélérateur, incubateur, slash coworking, qui m'avait demandé post-confinement, d'écrire un peu des choses sur la vision du monde. Et j'avais sorti cet article qui est complètement passé à la trappe, parce que je pense que les gens se sont dit « elle est malade » sur la création des états généraux de l'humanité. Aujourd'hui, tu nais au monde, on ne te demande pas le monde dans lequel tu as envie de vivre. Et là, on arrive à un tournant où on a compris que c'était la fin de l'abondance énergétique, qui du coup découlait sur ce modèle capitaliste, néolibéral, etc. On est tous globalement au fait qu'il faut changer de modèle. Mais on construit avec le modèle du passé et on essaye de faire des petites améliorations à la marge. Et en fait, je pense qu'il y a deux questions fondamentalement qu'il faut poser aux gens et mettre tout le monde autour de la table. C'est quel est le monde dans lequel vous avez envie de vivre ? Et quel est le monde dans lequel on peut vivre collectivement de manière pérenne ? Et donc, tu mets des anthropologues, des psys, des philosophes, des femmes et des hommes de ménage, des guaranis, tu mets tout le monde. Je sais qu'on a une assez faible croyance et ambition pour les gens en règle générale dans les élites politiques et que du coup on ne prend pas la peine de demander les choses aux gens parce qu'on pense qu'ils ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes. Mais là, il est un peu urgent de tous se regarder en face et de se dire, bah, ok, c'est quoi le monde dans lequel on a envie de vivre ? Et donc c'est au-delà d'une expérience démocratique participative, tu vois, c'est vraiment genre, vas-y, on prend cette feuille blanche. Et pourquoi est-ce que je suis convaincue que les psychédéliques reviennent sur le devant de la scène actuellement ? C'est parce qu'ils permettent de péter les schémas mentaux. C'est que le cerveau, il fonctionne en mode par défaut. Quand t'es enfant, tu penses par des petits trous de campagne et tu testes des trucs improbables. Et plus on vieillit, plus on devient adulte, plus pour des questions de survie, on est dans un mode par défaut. Donc, les décisions, c'est des grandes autoroutes cérébrales. Et derrière, tu sors rarement de ce schéma-là. Et ça, ça nous empêche de penser le monde du futur. C'est beaucoup trop. C'est comme quand tu penses le fini, l'infini, l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est très, très abstrait. Et ben, quand on te dit, oublie tout, oublie le monde, oublie ton monde économique, social, environnemental, oublie tout ça et pense demain. Ben, on n'y arrive pas.
Non.
Et ben, quand on prend des psychaïques, d'ailleurs, tu me demandais comment je stimule ma créativité, je vais vous donner une petite astuce, ça s'appelle les champignons, la psilocybine, qui est une molécule, et de temps en temps, j'utilise des champignons pour ça, et j'ai fait une semaine d'ayahuasca aussi l'année dernière dans une forêt comestible au Costa Rica, et ça m'a énormément aidé pour justement ouvrir cette vision, penser le monde de demain. T'as pas besoin de ça si t'es capable de rentrer dans des états méditatifs, dans des trans. Mais c'est un super accélérateur, c'est un bon proxy pour les gens qui ont quelques blocages mentaux. Donc ouais, si j'étais présidente, au-delà de donner des psychédéliques à tout le monde, je créerais ces états généraux de l'humanité où à un moment on se pose autour de la table, tu vois. Enfin,
on réfléchit à demain.
Ouais. Et tu vois, on a enregistré un podcast il y a pas longtemps avec une personne qui est sur les sujets de créer les récits de demain. Parce que tous ces industries créatives, cinématographiques, etc., c'est eux qui un peu positionnent le rêve capitalistique tout autour de l'argent. Bah, c'est en partie Hollywood, tu vois. Mmh. Donc à un moment, là, il faut qu'on réécrive ce rêve. Et je lui ai demandé, eh ben alors, c'est quoi le monde de demain? Voilà, c'est quoi la vision? Et elle m'a dit, la sobriété heureuse. Et je te jure, je suis tombée de ma chaise tellement c'est pété comme... qui se lève le matin en se disant, moi, je rêve de vivre dans la sobriété heureuse? Personne. Personne, il n'y a rien de plus... sobriété, tu prends un fouet et tu te lynches, quoi. Et alors, mais avec le sourire.
C'est heureux.
Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle m'a répondu ça? C'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente, mais c'est parce qu'elle construit à partir du modèle d'hier. Mmh. Ah, c'est la fin de l'abondance énergétique, donc l'inverse d'abondance, c'est la sobriété. Mmh. Donc, on réduit un peu notre voilure. Mais parle-moi de l'abondance de la nature. Je suis la nature, tu es la nature. C'est quoi? Parlons en qualitatif, sortons du quantitatif. Et discutons ensemble, mais en fait, c'est quoi un monde solidaire? C'est quoi un monde où l'inverse de la pauvreté, c'est pas la richesse, c'est la justice? Où, en fait, bah, on est tous ensemble dans une vision commune, et il y a un monde incroyable qui peut être créé aujourd'hui. Et comme on se fait l'économie de se mettre autour de la table, d'en discuter et de le réfléchir, et qu'on se repose sur quelques élites qui font que continuer le monde d'hier et le prolonge, mais le monde de demain ne peut pas être le prolongement du monde d'hier. Donc, fantastique. Une feuille blanche. Tu sais que j'adore les feuilles blanches. Et ben,
nous aussi, on aime beaucoup les feuilles blanches.
Et ben voilà. Moi, si j'étais présidente, je ferais quelque chose sur la vision du monde et ça s'appellerait les états généraux de l'humanité.
Bon, si jamais quelqu'un t'entend.
Ben franchement, son projet... c'est que c'est à cause de sa politique que le cannabis n'est toujours pas légalisé.
Wow. Alors, tu nous as déjà parlé d'une de tes grosses claques qui était cette procédure de sauvegarde. Est-ce qu'il y en a une autre?
En positif?
Tu peux.
Je peux te donner des trucs.
Ouais, parce que moi, je trouve que la claque, ça peut être et positif et négatif.
Ouais, ouais, si, là, j'en ai touché un tout petit mot, mais l'ayahuasca dans les forêts comestibles, ouais. Vraiment, il faut... Alors, le problème de l'ayahuasca, c'est que tu as eu des reportages, M6, machin et tout, qui ont tourné le truc en mode ces blancs occidentaux perdus dans leur vie qui viennent boire une plante en Amazonie pour tenter de se trouver. Donc, forcément, c'est chargé, c'est hyper connoté. Les psychédéliques, de toute façon, c'est très chargé comme mot. Donc, moi, je parle d'antéogène, du coup, qui est un autre mot, mais c'est la même chose. Mais ça passe un petit peu mieux publiquement. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait cette année de nomadisme, qui était à la découverte du monde, mais bon, à la découverte de moi-même, t'es pas vraiment à la découverte de toi, parce que c'est pas comme si le moi était là et qu'il suffisait de le révéler. C'est la construction de ton toi. Et il y a un truc que je voulais absolument faire, c'était vraiment cette expérience d'ayahuasca, mais je voulais la faire dans des très bonnes conditions, pas dans un truc touristique avec plein de gens. Et par le destin et les gens que j'ai rencontrés, on m'a guidée vers ce couple qui est franco-costaricain, qui a créé une forêt comestible au Costa Rica. Donc, c'est-à-dire que tu vis dans la forêt, tu te nourris de la forêt. Donc, tu es en termes de ressources énergétiques, tu es proche de zéro. Hein,
tu es dans une sobriété heureuse.
Ouais, là, c'était très sobre, il n'y a pas à dire. Et en fait, ce que j'ai découvert là-bas, c'est l'abondance.
Ouais.
C'est qu'en fait, c'était pas sobre. Je ne me suis jamais autant sentie en abondance que là-bas. Mmh. La question de la faim n'existe pas. Tu te nourris et en plus, c'est délicieux. Les relations humaines, incroyables. On discutait 3 heures par jour de l'amour, de la mort, de l'amitié. Enfin, on discutait de la vie des extraterrestres. On a discuté de tout. Donc il y a une forme d'abondance de lien social, de lien avec la nature. Et l'ayahuasca, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une racine que tu viens booster pour libérer de la DMT. Et cette racine, en fait, elle te crée des connexions cérébrales incroyables. Si on regarde un scan, un IRM, c'est comme si d'un coup, tout ton cerveau s'illuminait. Et donc, tu fais des liens kinesthésiques. Ça peut être très quelque chose d'assez chamanique, un peu de penser le monde de demain. Et en même temps, tu peux aussi être dans des choses très opérationnelles. Genre, sur la deuxième séance, j'en ai fait trois dans la semaine. Une séance, ça dure 10... Enfin, une cérémonie, ça dure 10 heures à peu près. Donc, tu vomis tes émotions, tu vomis les choses négatives. Donc, c'est agréable comme sensation. Enfin, c'est pas un truc horrible.
Oui, et dit comme ça, c'est...
C'est une purge. En fait, tu viens purger des choses. Et donc, j'avais des certaines où j'étais en train vraiment de penser le monde de demain, de penser ma vie, penser des trucs. Et j'en ai une très opérationnelle où il m'avait donné l'ayahuasca rioja, qui est l'ayahuasca féminine. Apparemment, ça marche que sur les femmes, on sait pas pourquoi. Et là, j'ai eu ma vie amoureuse défiler de manière méga chronologique, en mode ça t'a mis ça comme pensée limitante, ça fait qu'après il s'est passé ça, et après il y a eu ça. C'était comme si quelqu'un venait m'expliquer, et du coup ça a débloqué énormément de choses forcément, ça a créé des discussions passionnantes avec des gens après. Mais en tout cas, tu fais des liens entre plein de choses, et donc je le recommande très chaudement, mais par contre pas le faire dans un centre avec 10 personnes. Moi, j'étais, la première cérémonie, on était 7, parce qu'il y avait des gens du village qui étaient venus aussi. Et les deux d'après, j'étais toute seule. Et en fait, moi, j'avais besoin d'être seule pour pas être perturbée par les autres. Mais voilà, ça, à faire dans de bonnes conditions. Et le truc que ça a infusé en moi, qui est monstrueux, c'est que, donc, on était dans cette forêt comestible, j'ai trouvé ça super, mais je suis pas repartie en disant, demain, je vais faire des forêts comestibles. Mais par contre, dans les mois d'après, petit à petit, j'ai construit cette conviction que si on voulait sauver l'humanité, il fallait convaincre les milliardaires de racheter l'Amazonie pour la transformer en forêt comestible. Parce qu'en fait, c'était ça le nouveau rêve qu'on allait présenter. C'est que ces milliardaires, au lieu d'acheter des jets, au lieu d'acheter des yachts, au lieu de...
d'aller sur la Lune.
D'aller trouver des bimbos. En fait, ils pointeraient du doigt le nouveau rêve qui est comprendre qu'on fait partie de la nature, créer de l'abondance dans la nature. Et pourquoi c'est important qu'elle soit comestible? Parce qu'on parle de rentabilité. Et je pense qu'on a quand même toujours dans nos schémas mentaux ce besoin que tout soit utile. Et via les forêts comestibles, tu peux vraiment créer des business rentables pour toi, pour la nature, pour nous tous. Et donc, ça serait très utile qu'ils fassent ça. Donc, j'aimerais bien...
Tu commences un lobbying
Eh bien, alors, mon lobbying a commencé parce que j'ai mon centre de soins, il est en face du square du Carreau du Temple.
Oui.
Et j'essaye désespérément de contacter Ariel Veil, le maire du 3e, qui est marié avec Delphine Lorviller, la philosophe. Oui. Donc, je me dis, il doit être ouvert d'esprit, pour transformer le square du Carreau du Temple en forêt comestible. Mais j'arrive pas... je suis montée assez haut et tout, mais j'arrive pas à avoir de réponse. Donc, voilà, si
Passe Ariel peut-être Veil... par son épouse.
Bah ouais, je la connais pas non plus personnellement.
Mais donc on lance un appel.
Voilà. Et en fait, je me dis, si dans Paris, on arrive à faire déjà une preuve de concept de cette forêt comestible, parce que ça va mourir les parcs là, avec du sable partout, où il se passe rien, où t'as un vrai éveil de conscience.
Surtout comme des enfants le mangent.
Mais... Parfois, je me félicite de ne pas avoir un enfant. Et ensuite, on réplique et on commence à verdir Paris, mais intelligemment. Pas juste planter des... Moi, ce truc d'aller t'acheter un vêtement et on plante un boulot derrière, je te jure, ça me désespère. C'est pas comme ça qu'il faut protéger la nature. Et donc, ouais, on fait cette première preuve de concept. Et petit à petit, on se reconnecte et on reconnecte les villes à la nature. Mais en parallèle, on a besoin que ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent et de puissance montrent un peu créer ce nouveau rêve. Donc voilà, la claque, c'était ça.
Merci Laure pour toutes ces explications. On arrive au terme de cet enregistrement. Si toi, tu avais dû choisir une sista, c'est-à-dire une femme entrepreneur que tu admires, tu aurais choisi qui et pourquoi?
J'ai toujours été bonne élève, mais j'ai jamais respecté les consignes, notamment parce que j'en faisais toujours un peu trop. Du coup, je vais t'en citer deux parce que
c'est rigolo. Alix Poulet, qui est la précédente à ce micro, fait la même chose que toi.
Elle en a cité deux. Okay. Non, mais c'est dur de choisir. Il y en a, pour deux raisons très cohérentes. La première, c'est Sarah Msika. C'est la fondatrice de Plantation, qui est la plus grande ferme urbaine de Paris, qui est avec une vue incroyable sur Montmartre. C'est une machine de guerre. Vraiment, enfin, il faut que tu... Intellectuellement, elle est une puissance. Elle a cofondé le projet avec Sidney Delorme, qui est pareil, un bulldozer. Le projet est rempli d'intelligence, donc c'est végétalisé. Ils sont très lucides sur le fait que le business model purement de la production urbaine ne suffit pas, donc ça devient un vrai lieu événementiel, parce qu'en fait, on se sent bien là-bas. Donc, tout est intelligent dans leur projet. Elle a aussi un blog qui s'appelle Pointu, où elle fait des critiques gastronomiques très high level. Et donc maintenant, elle est entourée de plein de chefs, des chefs qui cuisinent avec ses produits, mais hyper renommés. C'est une nana, je ne sais pas pourquoi on ne la connaît pas plus. Vraiment, je n'ai aucune explication.
Donc, coup de projecteur.
Elle est incroyable. Et la deuxième, c'est Fleur Philippot, qui est la fondatrice de D-Lab, les compléments alimentaires, mais aussi de D-Lab Industrie, qui est une usine. Là, pareil, vraiment intellectuellement énorme puissance. En termes de développement de projet, c'est incroyable. Elle a... Et son usine, c'est l'usine la plus sexy du monde. Genre, quand on parle de relocaliser, quand on parle de refaire en France, de revaloriser certains métiers, bah en fait, t'as envie de bosser dans... C'est une usine, t'es devant, tu as envie de travailler dans cette usine. Et donc, les femmes entrepreneurs ont ce truc de créer des marques, mais créer des projets aussi qui donnent un peu plus envie. Tu vois, on met de la... C'est important de mettre de la beauté en toute chose. Si tu veux prendre... La beauté, c'est à travers l'art, mais c'est aussi à travers des projets entrepreneuriaux.
Puis re-rendre sexy l'industrie aussi.
Bah oui. Et en fait, elle, les deux projets, ils sont beaux. Ce qu'elles font, c'est beau, ça fait énormément de sens. Et c'est en plus des filles qui sont... Mais... Oh, franchement, moi, quand je parle avec elles, je me dis, waouh, ce vent de fraîcheur, quand t'es toujours tellement contente de parler avec des gens plus intelligents que toi, ça fait beaucoup de bien.
Eh bien, on n'hésitera pas à faire un petit coup de projecteur à ces deux femmes entrepreneurs. Et pour nous quitter, je te propose...
J'adore.
Et Laure, je précise avant de finir ce podcast que tu as ton propre podcast qui s'appelle Au Calme, H-O-K-A-L-M, qu'on retrouve sur toutes les plateformes. Et donc, longue vie à Okaran et à Okan. On a complètement explosé les compteurs, mais c'était tellement intéressant que c'est pas grave. Merci beaucoup, Laure, et à très bientôt.
Merci, Solène.